Je loue la progression et la lenteur dans la façon qu'ont les femmes de nous dispenser leur faveur. Platon nous montre que la facilité et la promptitude sont à proscrire dans toutes les formes de l'amour. C'est un signe de gourmandise que de se livrer aussi complètement et témérairement avec frénésie. Les femmes doivent recouvrir cela avec toute leur adresse. En attribuant leur faveur de façon mesurée et ordonnée, elles piquent bien mieux notre désir, tout en cachant le leur. Qu'elles fuient toujours devant nous, et même celles qui comptent bien se laisser attraper, elles viennent mieux à bout de nous en s'enfuyant, comme le faisaient les Scythes. Et d'ailleurs, en vertu des lois que la nature leur impose, ce n'est pas à elles de désirer. Leur rôle est de supporter, obéir, consentir. C'est pourquoi la nature leur a donné une disponibilité permanente pour l'amour, alors que la nôtre est rare et incertaine. Pour elles, c'est toujours le moment, pour elles, toujours prêtes quand c'est le moment pour nous, prêtes à subir. Et si la nature a voulu que nos désirs soient visibles et saillants, elle a fait en sorte que pour elle, ils soient occultes et internes. Elle les a dotés d'organes impropres à l'instantation et seulement faits pour la défensive. Les exemples, comme celui qui suit, doivent être imputés aux mœurs très libres des Amazones. Comme Alexandre était de passage dans l'Hyrcanie, la reine des Amazones, Thalestris, vint le voir avec 300 soldats de son sexe, bien montés et bien armés. Elle avait laissé le reste de la grande armée qui l'accompagnait au-delà des montagnes voisines. Elle lui déclara tout haut en public que le bruit de ses victoires et de sa valeur lui avait donné l'envie de le voir, de mettre ses moyens et sa puissance au service de ses entreprises, et que le trouvant si beau, si jeune et si vigoureux, elle lui conseillait, elle qui avait toutes les qualités, de coucher ensemble, afin qu'il naquît du plus vaillant homme vivant et de la plus vaillante femme du monde quelque chose de grand et de rare pour l'avenir. Alexandre la remercia pour ses autres offres, mais pour laisser un peu de temps à l'accomplissement de sa dernière demande, il s'arrêta 13 jours en ce lieu, pendant lesquels il festoya le mieux qu'il put en l'honneur d'une princesse aussi hardie. Nous sommes presque toujours de très mauvais juges des actions des femmes, comme elles le sont des nôtres. J'avoue la vérité quand elle me nuit de même que lorsqu'elle me sert. C'est pourquoi un dérèglement détestable qui les pousse si souvent au changement et les empêche de fixer leur affection sur quelque objet que ce soit, comme on le voit bien pour cette déesse à qui l'on attribue tant de changements et d'amis. Mais il est bien vrai que si l'amour n'est pas violent, c'est contre sa nature, et s'il est constant, c'est contre la nature de la violence. Ceux qui s'en étonnent et se récrient, qui cherchent les causes de cette maladie qu'elles ont en elles, la considérant comme dénaturée et incroyable, ne voient-ils pas combien ils s'en sont eux-mêmes frappés, sans être épouvantés, sans crier au miracle? Il serait peut-être plus étonnant de les trouver constantes, car il ne s'agit pas seulement d'une passion corporelle. Si la cupidité n'a pas de fin, ni l'ambition, il y en a non plus pour le paillardise. Elle demeure encore après la satiété. Il est impossible de lui prescrire une satisfaction durable, non plus qu'un terme. Elle va toujours au-delà de ce qu'elle possède. Dans ces conditions, l'inconstance leur est peut-être bien plus pardonnable qu'à nous autres. Elles peuvent alléguer contre nous l'attrait qui nous est commun envers la variété et la nouveauté. Mais de plus, à la différence de nous, elles peuvent se prévaloir du fait qu'elles achètent les yeux fermés sans avoir vu l'objet. Jeanne, reine de Naples, fit étrangler Andreas, son premier mari, aux grilles de sa fenêtre avec un lacet d'or et de soie, tissé par elle-même, parce que, dans l'accomplissement du devoir conjugal, elle ne lui trouvait ni les instruments ni la vigueur capables de répondre aux espérances qu'elle avait formées en voyant sa taille, sa beauté, sa jeunesse et ses bonnes dispositions. Elle estimait avoir été séduite et abusée. Les femmes peuvent encore alléguer pour leur défense que l'action demande plus d'efforts que la passivité, et que de leur part au moins elles fournissent toujours le nécessaire, tandis que de notre côté, il peut en aller autrement. C'est la raison pour laquelle Platon établit avec sagesse dans ses lois que pour décider de l'opportunité d'un mariage, des juges puissent voir auparavant les jeunes gens qui y prétendent tout nus et les filles jusqu'à la ceinture seulement. Quand elles nous mettent à l'épreuve, il se peut qu'elles ne trouvent pas dignes de leur choix. Après avoir éprouvé ses reins et d'une main infatigable tenté d'affermir la chose qui ressemble à du cuir mouillé, elle abandonne un terrain peu propice au combat amoureux. Martial. Il ne suffit pas que la volonté y soit. La faiblesse et l'impuissance rompent légitimement un mariage. Il fallait prendre ailleurs un époux plus viril, capable de dénouer la ceinture virginale, Catulle. Pourquoi pas, en effet? S'il ne peut faire preuve, comme elle s'y attend, d'un comportement amoureux plus licencieux et plus actif, mais s'il n'y a pas une grande impudence à apporter nos imperfections et nos faiblesses dans un lieu où nous désirons plaire et laisser de nous une bonne réputation et de l'estime. Pour le peu, j'ai besoin à l'heure actuelle. Je ne voudrais pas risquer d'importuner quelqu'un que je révère et je crains. Ne crains rien d'un homme dans le temps de sa course, a dit Clos le dixième lustre. Horace. La nature aurait dû se contenter de rendre cet âge malheureux, sans le rendre ridicule. Je déteste le voir pour le peu de chétive vigueur qui lui reste et qui l'échauffe trois fois par semaine, s'empresser et se démener avec la même vigueur que s'il avait amassé en son bas-ventre une charge légitime et importante. Un simple feu de paille. Et je m'étonne de voir une flamme si vive et si pétillante, aussitôt refroidie et éteinte. Un tel appétit ne devrait être le fait que de la fleur d'une belle jeunesse. Fiez-vous-y pour voir, et essayez donc de soutenir cette ardeur infatigable, complète et constante que vous ressentez. Il vous laissera tomber en pleine action. Tournez-vous plutôt carrément vers quelque tendre jeunesse, étonnée et ignorante, qui tremble encore sous la férule, et pour qu'elle en rougisse. Comme un ivoire indien teint de pourpre sanglante, ou comme des laits blancs mêlés à des roses reflètent la chaude couleur. Qui peut, sans mourir de honte, attendre le lendemain le dédain de ses beaux yeux, témoin de sa faiblesse et de son impuissance? Celui-là ne peut connaître la satisfaction et la fierté de les voir battus et ternis par le vigoureux exercice d'une nuit agitée, passer à son service. Quand j'en ai vu une s'ennuyer de moi, je n'en ai pas aussitôt incriminé sa légèreté. Je me suis demandé si je ne devais pas m'en prendre plutôt à la nature. Certes, elle m'a accusé de façon déplaisante et illégitime. Si mon outil n'est pas assez long ou pas bien gros, les matrones le savent bien, elles, qui voit d'un mauvais œil les petits outils. Elle m'a ri de façon déplaisante et illégitime et m'a causé un dommage énorme. Chacun de mes éléments est moi tout autant que les autres, mais nul autre ne fait de moi un homme plus évidemment que celui-ci. Je me dois de donner au public mon portrait complet. La valeur de mes propos vient de leur vérité, de leur liberté, de leur réalité. Ils laissent de côté ces petites règles fabriquées, usuelles, particulières. Ils sont naturels, constants et universels. Et la civilité et la cérémonie n'en sont que les filles abâtardies. Nous viendrons bien à bout des vices apparents quand nous serons venus à bout des vices réels. Quand nous en aurons fini avec les uns, nous nous attaquerons aux autres si nous jugeons qu'il faille y courir. Car le danger est de s'inventer des devoirs nouveaux pour nous excuser de négliger ceux qui sont naturels et de semer ainsi la confusion entre eux. On voit bien qu'il en est ainsi quand on constate que dans les lieux où les fautes sont des crimes, les crimes ne sont eux-mêmes que des fautes. Que dans les nations où les règles du savoir-vivre sont moins nombreuses et plus souples, les règles élémentaires et communes sont mieux observées. La multitude des devoirs observés étouffe le soin que nous y apportons, l'affaiblit jusqu'à l'anéantir. L'attention accordée aux choses légères nous éloigne de celles qui nous sont importantes. Et comme les gens superficiels suivent une route facile et bien vue de tous, au regard de la nôtre. Les usages sont des ombres dont nous nous recouvrons et nous nous gratifions mutuellement. Mais ce n'est pas avec cela que nous allons régler. Au contraire, la dette que nous avons envers ce grand juge qui retrousse nos vêtements et nous haillons autour de nos parties honteuses et n'a aucune peine à nous voir partout, y compris en nos plus secrètes et plus intimes ordures. Elle serait bien utile en sa décence, notre virginale pudeur, si elle pouvait lui interdire de découvrir cela. Et enfin, celui qui libérerait l'homme d'une superstition verbale aussi tatillonne ne causerait pas grand tort au monde. Notre existence est faite en partie de folie, en partie de sagesse. Celui qui, dans ses écrits, se montre respectueux et soucieux des règles établies, en laisse donc de côté plus de la moitié. Bon, je ne me cherche pas d'excuses. Si je le faisais, ce serait plutôt mes excuses que je m'excuserais que d'une faute qui me serait propre. Mais je veux me justifier auprès de certains qui pensent autrement et qui sont en général un plus grand nombre, me semble-t-il, que ceux qui pensent comme moi. Et comme je veux mécontenter personne, il est bien difficile pour un homme qui est un de se conformer à une aussi grande diversité de mœurs, de discours et de sentiments. Tenant compte de leur opinion, je dirais donc que ceux-là ont bien tort de s'en prendre à moi pour ce que je fais dire aux autorités admises et approuvées depuis des siècles, et qui n'en est pas juste, parce que je n'écris pas en vers qui me refuse la liberté dont jouissent à notre époque même des hommes d'Église. En voici deux, par exemple, et des plus renommés. Que je meure si ta fente n'est pas une ligne étroite, un vide d'amis, la contente et bien traitée. Et que dire de tant d'autres ? Je prône la modestie, et ce n'est pas de façon délibérée que je choisis cette façon de parler choquante. C'est nature qui l'a choisie pour moi. Je n'en fais pas non plus l'éloge, pas plus que de toutes les formes contraires aux usages. Mais je l'excuse et en atténue la condamnation en vertu de circonstances tant générales que particulières. Mais reprenons. On peut demander aussi d'où vient cette autorité souveraine et usurpée que vous prenez sur les femmes qui vous favorisent à leurs dépens. Cela suffit-il pour que vous vous sentiez aussitôt les droits, la froideur et l'autorité d'un mari ? L'amour est une convention passée librement. Pourquoi ne pas vous y attacher comme vous voudriez y assujettir les femmes ? Il ne saurait y avoir de règles prescrites à propos de choses volontaires. C'est au contraire à l'usage, mais il est vrai, pourtant que j'en ai eu mon temps, conclu ce marché autant qu'il est possible, aussi consciencieusement qu'un autre et avec quelque apparence de justice. Je n'ai témoigné aux femmes en matière d'affection que ce que je ressentais véritablement pour elles. Je leur ai montré sincèrement la décadence, la vigueur et la naissance, les accès et les accalmies. car on n'y va pas toujours à la même allure. J'ai été si avare de promesses que je pense avoir plus tenu que promis ou dû. Elles ont trouvé là une sorte de fidélité, allant jusqu'au service de leur inconstance, je veux dire de leur inconstance avouée et parfois multipliée. Je n'ai jamais rompu avec elles tant que je tenais à elles, ne fût-ce que par un fil, et dans les quelques occasions qu'elles m'en ont fournies. Je n'ai jamais rompu au point d'éprouver pour elles du temps du mépris ou de la haine. En ayant acquis, même par les moyens les plus honteuses conventions, de telles privautés, cela m'a contraint encore à quelque bienveillance à leur égard. Je leur ai parfois montré un peu de colère et d'impatience exagérée, du fait de leurs ruses et de leurs faux fuyants, lors de nos disputes, car je suis par nature sujet à des émotions brusques qui nuisent souvent à mes entreprises, bien qu'elles soient légères et de peu de durée. Si elles ont voulu mettre à l'épreuve ma liberté de jugement, je n'ai pas hésité à leur donner des avis autoritaires et mordants, à mettre le doigt sur la plaie. Si je leur ai laissé quelques motifs de se plaindre de moi, c'est plutôt d'avoir, au regard de l'usage d'aujourd'hui, éprouvé pour elles un amour bêtement consciencieux. J'ai respecté ma parole dans les affaires pour lesquelles on m'en a fait facilement dispenser. Elles se soumettaient alors, parfois, à mes raisons, en conservant leur réputation, observant des conventions qu'elles eussent volontiers vues enfreintes par le vainqueur. J'ai fait céder plus d'une fois le plaisir à ce paroxysme devant l'intérêt de leur honneur, et lorsque la raison m'y contraignait, je les ai armées contre moi de telle façon qu'elles se conduisaient alors plus sûrement et plus sévèrement en suivant mes principes qu'elles ne l'eussent fait en suivant les leurs. Autant que je l'ai pu, j'ai pris sur moi seul le risque de nos rendez-vous pour les en décharger, et j'ai toujours organisé nos rencontres par les voies les plus directes et les plus inattendues pour moins éveiller les soupçons et les rendre de ce fait, à mon avis, plus commodes. On est généralement découvert par là où l'on se croit le mieux caché, et les choses que l'on craint le moins sont les moins défendues et les moins observées. On n'ose plus facilement faire ce que personne ne pense que vous oserez et qui devient facile par sa difficulté même. Personne n'eut jamais plus que moi une façon ouvertement charnelle dans ses travaux d'approche. Cette façon d'envisager l'amour est plus conforme aux règles naturelles. Mais qui sait mieux que moi combien elle est ridicule et peu efficace pour les gens d'aujourd'hui? Et pourtant, je n'ai point à m'en repentir. Je n'ai plus rien à perdre en ce domaine. Il est temps désormais d'en parler ouvertement. Mais à un autre, je dirais peut-être, mon ami, tu rêves, l'amour de ce temps a peu à voir avec la loyauté et l'honnêteté. Alors, si au contraire, c'était à moi de recommencer, je recommencerais de la même façon, avec la même méthode, aussi infructueuse qu'elle puisse être pour moi. L'inefficacité et la sottise sont louables dans une action qui ne l'est pas. Et m'éloignant de ce qui se fait, je me rapproche de ce que je suis. Au demeurant dans ces affaires-là, je ne me laissais pas complètement aller. Je m'y complaisais, mais je ne m'y oubliais pas. Je conservais ce peu de discernement et de jugement que la nature m'a donné, que ce soit pour le service des dames ou pour le mien. Un peu d'émotion, mais pas de folie. Ma conscience s'y trouvait engagée, elle aussi, jusqu'à la débauche et au dérèglement, mais m'en eut jusqu'à la gratitude de la trahison, la méchanceté ou la cruauté. Je n'achetais pas les plaisirs de ce vice à tout prix. Je me contentais simplement de ce qu'il coûte. Aucun vice n'est renfermé sur lui-même. Je déteste à peu près autant l'oisiveté croupie et assoupie qu'une activité délicate et pénible. Celle-ci me pince, l'autre m'assoupit. J'aime autant les blessures que les meurtrissures et les coups tranchants que les éraflures. J'ai trouvé dans ses dispositions, quand j'y étais le plus à l'aise, une juste balance entre les deux extrémités. L'amour est une agitation éveillée, vive et gaie. Je n'en étais ni troublé ni affligé, mais j'en étais excité et encore plus changé. Il faut s'en tenir là, elle n'est nuisible qu'au fou. Un jeune homme demandait au philosophe Panétios s'il était bien convenable pour un sage d'être amoureux. « Laissons-la le sage, répondit-il, mais toi et moi, qui ne le sommes pas, nous ne devons pas nous engager dans quelque chose d'aussi troublé et violent qui nous rend dépendants d'autrui et méprisables pour nous-mêmes. » Il disait vrai, il ne faut pas confier une chose si impétueuse par elle-même à une âme qui n'est pas en mesure d'en soutenir les assauts et incapable de réfuter en acte les paroles d'Agésilas selon lesquelles la sagesse et l'amour ne peuvent aller ensemble. Car c'est une vaine occupation que l'amour, c'est vrai, malséante, honteuse et illégitime. Mais si on la conduit de façon modérée, je l'estime salubre et propre à dégourdir un esprit et un corps appesantis. Et si j'étais médecin, je l'ordonnerais volontiers à quelqu'un comme moi, de mon tempérament et de ma condition, aussi volontiers que n'importe quel autre remède, pour l'éveiller et le tenir en forme jusqu'à un âge avancé et pour retarder sur lui les effets de la vieillesse. Pendant que nous n'en sommes encore qu'au faubourg, que le pouls bat encore. Mes cheveux, dit Juvénal, à peine blancs, ma vieillesse à son début, je me tiens encore droit et la caisisse a encore de quoi filer. Mes jambes me portent encore et ma main n'a nul besoin de bâton. Nous avons besoin d'être sollicités, chatouillés par quelque agitation qui nous dévore comme celle de l'amour. Voyez comme elle a redonné de la jeunesse, de la vigueur et de la gaieté au sage Anacréon. Et Socrate, plus vieux que je ne le suis, parlant d'un objet amoureux, disait « Ayant appuyé mon épaule contre la sienne et approché mon visage du sien, alors que nous regardions ensemble dans un livre, je sentis soudain, sans mentir, une piqûre dans l'épaule, comme si une bête m'avait mordu. Et pendant plus de 5 jours ensuite, je ressentis là des fourmillements et dans le cœur une démangeaison continuelle. Ainsi, un attouchement d'épaule, fortuit, était capable de réchauffer et de troubler une âme refroidie et affaiblie par l'âge, et la première de toutes par la sagesse. Mais pourquoi pas ? Socrate était un homme, il ne voulait être ni paraître autre chose. La philosophie ne s'oppose pas au plaisir naturel, pourvu qu'il soit mesuré. Elle prêche leur modération, non leur abandon. Ses efforts se portent contre ceux qui sont étrangers à la nature et les bâtards. Elle dit que les désirs qui émanent du corps ne doivent pas être renforcés par l'esprit, et elle nous conseille intelligemment de ne pas chercher à éveiller notre faim par la satiété, de ne pas se gaver au lieu de simplement se remplir le ventre, d'éviter toute jouissance qui nous ferait ressentir son manque et toute nourriture et tout breuvage qui pourrait nous affamer et nous altérer. De même, en ce qui concerne l'amour, elle nous ordonne de prendre un objet qui satisfasse simplement le besoin du corps et qui ne trouble point l'âme. Celle-ci ne doit pas en tenir compte. Elle doit suivre simplement le corps et l'assister. Mais n'ai-je pas raison de penser que ces préceptes, qui d'ailleurs ont à mon avis une certaine rigueur, concernent un corps capable d'accomplir son office, et qu'un corps affaibli, comme un estomac délabré, il est excusable de le réchauffer et de le soutenir par les artifices, et lui redonner par le biais de l'imagination l'appétit et l'allégresse qu'il a perdu. Ne peut-on dire que, pendant que nous sommes dans cette prison terrestre, il n'y a rien en nous de purement corporel ni de purement spirituel, et que c'est déchirer un homme tout vif que de séparer les deux? N'y a-t-il pas aussi quelque raison de porter la même attention au plaisir qu'à la douleur? Pour prendre un exemple, la douleur était violente au dernier degré dans l'âme des saints qui faisaient pénitence, mais le corps y prenait part naturellement, du fait de leur alliance, même s'il était peu en cause. Les saints ne se sont pas contentés de le voir suivre et assister leur âme maltraitée. Ils l'ont maltraité lui-même en lui infligeant des souffrances particulières et atroces, afin que l'un et l'autre, âme et corps, fassent plonger l'homme dans la douleur, d'autant plus salutaire qu'elle était plus rude. Et de la même façon, dans le cas des plaisirs corporels, n'est-il pas injuste de prévenir l'âme contre eux et de ne l'y entraîner que comme vers une obligation, une nécessité à laquelle elle devrait se contraindre et se soumettre? C'est plutôt à elle, au contraire, de les réchauffer, de les susciter, de s'y offrir, de s'y inviter, puisque c'est à elle que revient la charge de les diriger. Tout comme, à mon avis, concernant les plaisirs qui lui sont propres, c'est aussi à elle de les insuffler dans le corps, de le faire se pénétrer de tout ce qui lui en est accessible de par sa condition, de faire en sorte qu'il lui soit doux et salutaire. Car s'il est bon, comme on dit, que le corps ne suive pas ses appétits au préjudice de l'esprit, pourquoi ne serait-il pas bon aussi que l'esprit ne suive pas les siens au préjudice du corps? Je n'ai pas d'autre passion qui me tienne en haleine. Ce que la cupidité, l'ambition, les querelles, les procès sont pour les autres, pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas d'occupation déterminée, l'amour le remplacerait plus agréablement. Il me redonnerait la vigilance envers moi-même, la sobriété, l'amabilité, le soin de ma personne. Il raffermirait mon aspect, et les grimaces de la vieillesse, ces grimaces difformes et pitoyables, ne parviendraient plus à le détériorer. Il me ramènerait aux études saines et sages, par lesquelles je pourrais me rendre plus estimé et mieux aimé, en ôtant de mon esprit le désespoir et le mépris envers son propre usage, il le rendrait à lui-même. Il me divertirait de mille pensées ennuyeuses, de mille chagrins mélancoliques, dont l'oisiveté nous accable à cet âge, avec le délabrement de notre santé. Il réchaufferait, au moins en imagination, ce sang que la nature abandonne. Il soutiendrait le menton et allongerait un peu les muscles, la vigueur et l'allégresse à vivre de ce pauvre homme qui s'en va à toute vitesse vers sa ruine. Mais je vois bien que c'est un avantage très difficile à recouvrer. Par faiblesse et par une longue expérience, notre goût est devenu plus délicat et plus difficile. Nous demandons plus alors que nous apportons moins. Nous voulons avoir le choix alors que nous méritons moins d'être acceptés. Sachant ce que nous sommes moins audacieux et plus méfiants. Rien ne peut nous garantir d'être aimés, étant donné notre condition et la leur. J'ai honte de me retrouver au milieu de cette bouillante jeunesse dont le membre est plus solidement planté que ne l'est sur les collines un jeune arbre. Pourquoi donc aurions-nous montré notre misère au milieu de cette allégresse? Pour que ces jeunes gens ardents puissent voir et non sans beaucoup rire notre flambeau s'en aller en cendres, selon Horace. Ils ont pour eux la force et la raison. Laissons-leur la place. Nous n'avons plus le moyen de leur tenir tête. Et de toute façon, ce genre de beauté naissante ne se laisse pas manier par des mains si engourdies et ne se donne pas volontiers pour des raisons purement matérielles. Comme le dit ce philosophe ancien à celui qui se moquait de lui parce qu'il n'avait pas su gagner les bonnes grâces d'un tendron qu'il poursuivait de ses assiduités. « Mon ami, l'hameçon ne s'accroche pas dans du fromage aussi frais. » Or, il s'agit là d'un type de relation qui demande de la réciprocité. Les autres plaisirs que nous recevons peuvent être récompensés par des présents de diverses sortes, mais celui-ci ne peut être payé que dans la même monnaie. En vérité, dans ce genre de plaisir, celui que je donne chatouille plus agréablement mon imagination que celui qu'on me procure. Et qui peut recevoir du plaisir sans en donner et n'est pas généreux. C'est une âme vile qui veut être redevable en tout et qui se plaît dans les relations avec les gens pour qui il est à charge. Il n'est nulle beauté, nulle grâce, nulle privauté exquise qu'un galant homme puisse désirer pour ce prix-là. Si les dames ne peuvent nous faire du bien que par pitié, je préfère ne pas vivre plutôt que de vivre d'aumône. Je voudrais bien avoir le droit de leur demander, à la façon dont je l'ai vu faire en Italie, « Faites-moi du bien pour vous-même », ou à la façon dont Cyrus exhortait ses soldats, qui même me suivent. « Me reportez-vous, me dira-t-on, à celle de votre condition, qu'un même destin vous rendra plus facile ?» Oh, la sotte et insipide combinaison! Xénophon fait des reproches à Ménon et l'accuse d'avoir lancé d'amour qui n'était plus dans la fleur de l'âge. Je trouve plus de plaisir à voir seulement le juste et doux mélange de deux jeunes beautés ou à l'imaginer seulement en esprit plutôt que de faire moi-même le second d'un couple triste et uniforme. Je laisse ce désir curieux à l'empereur Galba, qui ne s'intéressait qu'aux chairs dures et vieilles, et à ce pauvre malheureux. Fussent les dieux que je puisse te voir ainsi, que je puisse baiser les cheveux blanchis et serrer contre moi ton corps amaigri, Ovid. Et parmi les pires laideurs, je place les beautés artificielles et forcées. Émonès, ce jeune garçon de Kio, pensant acquérir par de beaux atours la beauté que lui refaisait la nature, se présenta au philosophe Arkésilas et lui demanda si un sage pouvait être amoureux. « Oui, répondit l'autre, à condition que ce ne soit pas d'une beauté parée et sophistiquée comme la tienne. » La laideur d'une vieillesse avouée est moins laide et moins vieille, à mon avis, que celle qui est repeinte et bien lissée. Le dirais-je, pourvu qu'on ne me saute pas à la gorge. L'amour ne me semble vraiment et naturellement dans sa bonne saison que dans un âge proche de l'enfance. De même que la beauté, d'ailleurs. Car si Homère étend ce moment jusqu'à ce que le menton commence à s'ombrager, Platon a remarqué que cette beauté est rare. Et l'on sait bien pourquoi le sophiste Dion appelait les poils follets de l'adolescence Harmodien et Aristogiton. Je trouve que la bourde est déjà plus à sa place dans la virilité. Ne parlons pas de la vieillesse. Il survole les chaînes dénudées sans s'y arrêter. Et Marguerite, reine de Navarre, en femme qu'elle est, prolonge fort loin l'avantage des femmes, en décidant qu'à 30 ans, il est temps qu'elles abandonnent le titre de belle femme pour celui de bonne femme. Plus la possession de ce sentiment sur notre vie est courte, mieux nous en valons. Voyez l'aspect de celui-ci, son menton est celui d'un enfant, qui ne sait que dans son école, on procède à rebours de tout ordre normal. L'étude, les exercices, la pratique conduisent ici à l'incapacité. Les novices y sont les maîtres. L'amour ne connaît pas de règles. Certes, sa conduite a plus d'élégance quand elle est accompagnée d'inadvertance et de troubles. Les fautes, les échecs lui donnent du piquant et de la grâce. Pourvu qu'elle soit violente et pressée, peu importe qu'elle soit sage. Voyez comme il marche en chancelant, clopinant, folâtrant. On lui passe des chaînes quand on le guide, avec habileté et sagesse, et on brime sa divine liberté quand on le remet entre les mains calleuses de ces hommes barbus. Au demeurant, j'entends souvent les femmes parler de cette communion toute spirituelle et dédaigner de prendre en considération l'intérêt qui trouve les sens. Tout y participe. Mais je puis dire que si j'ai souvent vu qu'on excusait la faiblesse de leur esprit par la beauté de leur corps, je n'ai encore jamais vu qu'elles voulussent gagner, arguer de la beauté de leur esprit, si mûr et si distingué soit-il, en faveur de leur corps, tant soit peu tombée en décadence. Comment se fait-il qu'aucune d'elles n'ait envie de faire cet échange socratique entre le corps et l'esprit, en achetant pour prix de ses cuisses une intelligence et une fécondité philosophique et spirituelle qui seraient le plus haut prix qu'on puisse leur attribuer? Platon stipule dans ses lois que celui qui aura réalisé quelque exploit utile et remarquable en temps de guerre ne doit pas se voir refuser pendant la durée des hostilités et sans qu'il soit tenu compte de sa laideur ou de son âge, quelques baisers ou faveurs amoureuses de quiconque il aura désiré l'obtenir. Ce qu'il trouve si juste comme rétribution de la valeur militaire ne peut-il l'être comme rétribution d'autre chose? Et comment se fait-il qu'il ne prenne envie à quelqu'une de se prévaloir auprès de ses compagnes de la gloire d'un amour chaste, je dis bien chaste? Les vices qui demeurent dans la pensée ne sont pas les pires. Et pour en finir avec ce commentaire débordant qui s'est échappé de moi dans un flot de bavardage, flot impétueux et parfois nuisible, une pomme furtivement donnée par son amant tombe du chaste sein d'une jeune fille, Catulle. La peau a oublié qu'elle l'a cachée sous ses vêtements, et quand arrive sa mère et qu'elle se lève, la pomme choit et roule à ses pieds. Alors la rougeur sur son visage dit assez sa faute. Je dis donc que les mâles et les femelles sont sortis d'un même moule. Ne serait l'éducation les usages, la différence ne serait pas grande. Dans sa République, Platon appelle indifféremment les uns et les autres à participer à toutes les sortes d'études, exercices, charges et professions en temps de guerre comme en temps de paix. Et le philosophe Antisthène niait toute distinction entre leur courage et le nôtre. Il est bien plus aisé d'accuser un sexe que d'excuser l'autre. Comme on dit, le tisonnier dit que la poêle est noire.